On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Je suis très heureuse de vous retrouver sur France Bleu, comme chaque soir, pour une nouvelle soirée de discussion, de confidences. Et vous le savez, on parle de tout dans On se dit tout. On parle surtout de vous, c'est ça qui est important. On choisit un thème, vous êtes concernés, vous nous appelez. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pas simple pour ceux qui sont concernés, un sujet qui fait peur aussi à ceux qui ne le sont pas, puisqu'on va parler du VIH, le virus du sida. En France, 150 000 personnes vivent avec le VIH, et même si la recherche avance, on ne guérit toujours pas du sida. Mais on vit avec et on vit quand même mieux qu'avant. Ce soir, vous avez la parole si vous êtes séropositif, si vous vivez avec une personne séropositive. Venez nous parler de l'annonce, des traitements, du quotidien, de votre sexualité, mais aussi de discrimination. On va en parler beaucoup, d'exclusion également. 0810 055 056, c'est vous qui avez la parole jusqu'à 22h. Et notre grand témoin ce soir, c'est Didier Artaud, le fondateur de l'association Basiliade. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Basiliade, qui a été créée en 93, à la base c'était pour accompagner les personnes qui ont le sida et qui sont exclues, qui sont mises de côté, qui sont stigmatisées.
Voilà, c'était à l'origine, c'était vraiment les accueillir et les accompagner.
C'est toujours le cas aujourd'hui en 2017?
C'est toujours le cas. Il y a beaucoup de personnes qui sont en grande précarité, grande fragilité par rapport au VIH. Et donc il y a beaucoup de problèmes de matériel, hein, des gens qui sont à la rue, qui dorment dans les parkings, dans les sous-sols. Et donc on accueille toutes ces personnes-là et puis surtout on les accompagne vers le retour à l'autonomie.
Alors la question forcément qu'on se pose, c'est pourquoi VIH égale précarité? À un moment, c'est quoi la relation?
On a constaté, les études constatent qu'il y a un lien fort entre précarité et VIH. C'est la maladie qui en France est le plus connectée à la précarité, parce qu'il y a tout un système de désocialisation, de stigmatisation, de précarité, d'exclusion, induit plus ou moins spontané, mais en tout cas il y a tous ces problèmes qui se cumulent et qui font que les personnes cumulent à la fois la maladie et la précarité.
Mais on va parler de tout ça, on va parler de votre quotidien finalement avec le VIH. C'est votre émission, c'est important d'en parler, c'est important de libérer cette parole. On le fait chaque soir sur des sujets parfois légers. Ça l'est un petit peu moins ce soir, mais c'est vraiment vous qui faites l'émission et c'est important de le rappeler. On se dit tout, c'est parti et c'est jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
En France, 11% des nouvelles découvertes de séropositivité concernent les jeunes de 15 à 24 ans, eux que l'on croyait informés, mobilisés, sensibilisés au VIH. Et ce soir, on a décidé d'en parler avec vous, vous qui êtes séropositif, avec vous dont le conjoint, la fille, la femme, l'ami est séropositive. Et contrairement aux idées reçues, le virus ne faiblit pas. On a enregistré en 2015, hein, c'est les derniers chiffres, un nombre record de nouvelles infections par le VIH en une année. Alors comment on vit avec ce virus du sida, comment on en parle ou pas, comment on envisage sa vie amoureuse, sa vie professionnelle aussi. Venez nous rejoindre et en parler sur France Bleu 0810 055 056 en compagnie de Didier Artaud de l'association Basiliade. Et nous sommes avec Hassan en Savoie. Bonsoir Hassan.
Oui, bonsoir.
Merci de nous appeler, d'être le premier à témoigner. Je sais que c'est pas toujours évident de prendre son téléphone pour dire voilà, je suis séropositif, je vais appeler la radio. C'est très courageux de votre part. C'était il y a 7 ans pour vous, Hassan?
Tout à fait, voilà, ça a été une découverte assez bouleversante de manière générale dans ma vie personnelle et ma vie, ben, je dirais également familiale, parce que je vivais à l'époque donc chez mes parents et ben, ça a été, je leur ai annoncé ça de manière assez spontanée, c'est-à-dire le jour où je l'ai appris, je l'ai également en fait annoncé à ma famille et ben, ça en est suivi des années assez difficiles. Très difficile parce que pas de problème de santé, c'est tout le paradoxe. C'est quelque part j'étais porteur d'une maladie qui avait pour seule conséquence des conséquences sur ma vie professionnelle entre guillemets, parce que ça m'a fermé une partie d'un rêve et surtout des conséquences après de avec ma famille, parce que forcément on imagine que la personne va mourir dans très peu de temps. Il y a tout un rapport à la maladie qui est faux.
Quand vous dites que ça a été compliqué professionnellement, pourquoi professionnellement, Hassan? Est-ce qu'à un moment donné, on est obligé de le dire?
Alors écoutez, normalement, je pense, hein, je crois savoir qu'en France, il n'y a pas de... Non, il n'y a aucune
raison de
divulguer la maladie. Maintenant, moi, c'était dans un projet professionnel à l'étranger, où justement c'est comme ça que j'ai découvert, c'est qu'il y avait un test, il y avait un test d'entrée entre guillemets, bah, avant d'entrer dans le pays. En fait, c'était un des pays des Émirats, un des rares pays qui justement demande un test pour du VIH avant d'accepter des ressortissants d'autres pays.
Et c'est comme ça que vous avez découvert que vous étiez séropositif ?
Tout à fait, voilà. Donc c'était bon, bouleversant, mais vraiment, donc si on parle du fait de vivre avec, c'est assez surprenant à dire, mais ce que je réalise au bout de 7 ans, c'est que les seules conséquences que ça a, ce sont des conséquences, on va dire, même pas dans la vie de tous les jours, parce que je suis sous traitement depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, et j'ai pas d'effet secondaire particulier, j'ai une vie normale, vraiment, je peux dire normale, je pratique une activité sportive, je suis en pleine forme, et les seules conséquences restent quand même liées un petit peu, je pense, à l'image autour. Et donc, si vous me permettez une comparaison, mais je ne compare en aucun cas les deux. Hein, donc, je préfère assurer tous les auditeurs. C'est assez drôle parce que je me dis que ça aurait pu être en fait un cancer. Je pense que le regard aurait été très différent. Même mon regard vis-à-vis de ça, en fait, aurait été très différent. Donc, je pense surtout que c'est une culpabilité qui est le plus difficile à gérer. En fin de compte, c'est ça. Cette culpabilité. Et ce rattachement un petit peu, en fait, c'est au sexe, c'est quand même lié au sexe. Donc, dans notre culture judéo-chrétienne, ou moi étant à la base musulman, mais je veux dire, un petit peu tout ce qui a un rapport avec la religion, dans tous les cas déjà, complique la chose. Et moi, c'est un petit peu ce que je constate maintenant au bout de 7 ans.
C'est vrai, Didier Arthaud, ce que dit Hassan, le fait que ça touche finalement à la sexualité, c'est ce qui rend aussi la maladie silencieuse et tabou parfois.
Oui, c'est vrai. Tout ce que dit Hassan est incroyable parce que c'est un résumé incroyable de la maladie aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est qu'Hassan a une vie complètement normale, comme il dit. Donc ça, c'est bien. Mais le regard des autres et le regard sur soi, culpabilisant, il y a de la honte, il y a de la culpabilité par rapport à soi-même et puis les autres par rapport aux autres. Et c'est vrai que c'est du coup difficile d'aller à la rencontre des autres. Donc quand on est célibataire, quand on est jeune, qu'on est célibataire, mais c'est très compliqué le regard des autres. La première rencontre avec l'autre est très compliquée.
Est-ce qu'on le dit tout de suite? Est-ce qu'on attend? Est-ce que
voilà, si on le dit tout de suite, on se prend un râteau tout de suite. Et si on le dit pas, derrière, ça fausse tout de suite la relation. Et quand on le dit,
On n'en a pas parlé, Hassan, des relations amoureuses. Est-ce que c'est compliqué aussi?
Ça a pu l'être, j'ai eu depuis 3 relations, étant gay, 3 relations donc homosexuelles, et donc ça a été difficile de l'annoncer. Après, j'ai certainement été très chanceux de tomber sur des personnes qui n'avaient pas spécialement de connaissances justement par rapport à ça, par rapport au mode de transmission, parce que on en parle. Je pense pas, c'est pas qu'on en parle pas suffisamment, mais on en parle pas de manière spécifique. Donc du coup, c'est très difficile de voir un petit peu ce qui est un comportement à risque, un comportement qui ne l'est pas. C'est, je pense, qui explique aussi la hausse des contaminations récemment, c'est qu'il y a un grand tabou par rapport à ça, à ce qu'on peut dire, même ne serait-ce qu'aux jeunes. Mais non, moi, au contraire, mais mon partenaire actuel est n'a aucun problème avec ma maladie. On en parle de manière très libre. Je lui laisse également en fait la possibilité de me poser toutes les questions qui lui passent par la tête. Et ça a été dès le début parce que je me suis mis à sa place en imaginant moi être le séronégatif et lui le séropositif. Je pense que j'aurais eu envie de demander, mais de toutes les questions possibles, en fait.
C'est bien, ça, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, de pouvoir poser toutes les questions que l'on veut. C'est comme ça qu'il faut avancer?
Oui, c'est décisif. Hein. C'est décisif par rapport à soi, puis c'est décisif sur un plan plus général de la société. Quand on entend un témoignage comme Hassan, on se dit, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème pour assumer sa séropositivité. Il y a un traitement, il y a des choses, et puis voilà, c'est la vie continue.
Finalement, c'est les autres. J'ai l'impression que c'est le rapport aux autres qui est plus compliqué à ça.
Vous parliez
même de vos parents. Avec vos parents, c'est encore compliqué aujourd'hui?
Non, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que du coup, j'ai des parents, surtout une mère qui est très très mère poule, Et donc du coup, je me dis que je vais un petit peu donner une raison supplémentaire d'être attentive. Oui. Donc oui, c'est compliqué simplement parce que je peux pas lui expliquer que le fait d'avoir une grippe en hiver comme tout le monde, d'avoir un gros coup de rhume ou avoir un petit peu de fièvre ne veut pas dire tout de suite en fait que je suis en train de mourir. Donc du coup oui, ça peut rendre des fois les choses un peu délicates, mais au final je réalise aussi qu'elle est maintenant très informée du fait que son fils étant dans la situation. Je pense qu'elle cherche elle-même aussi l'information davantage. Je pense qu'il y a aussi à voir avec ça.
Hassan, merci beaucoup pour votre témoignage. Il était beau, il était important aussi pouvoir démarrer l'émission avec vous. On vous embrasse et puis à bientôt, Hassan.
Écoutez, merci de m'avoir reçu. Écoutez.
Bonne soirée à vous. Au revoir.
Au revoir.
0810 055 056. Si vous aussi vous voulez nous rejoindre pour en parler, vous êtes vraiment les bienvenus. Jusqu'à 22h, on parle du sida ce soir. Vous êtes séropositif ou vous vivez avec quelqu'un porteur du VIH? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe pour vous. Comment vous l'avez découvert? Comment votre quotidien s'organise? Est-ce que, comme Hassan, finalement, vous vous dites, moi ça va bien, c'est plutôt les autres pour qui ça pose problème? Venez en parler. Dans quelques instants, c'est André qui va nous rejoindre. Il a 27 ans. Il a découvert il y a 8 mois qu'il était séropositif. Il n'en a pas beaucoup parlé. Et bien justement, on va en parler avec lui. On est très touchés qu'il le fasse sur France Bleu.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Chaque soir, sur France Bleu, on se dit tout effectivement. Et on se dit tout sur tout. On vous écoute nous raconter votre parcours, votre histoire, votre vie avec des moments plus ou moins faciles. Ce soir, c'est pas un sujet très facile, on est d'accord. Un peu délicat que nous abordons puisqu'on parle du sida. Comment on vit quand on apprend qu'on est séropositif? Comment on vit quand on apprend qu'on vit avec quelqu'un séropositif aussi? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien? Est-ce que ça change pour soi? Est-ce que ça change dans la vie sociale, professionnelle? Venez nous rejoindre au 0810 055 056. Et c'est Didier Artaud qui est avec nous de l'association Basiliade qui a pour vocation d'accueillir et d'accompagner les personnes en situation de précarité atteintes notamment par le VIH. Et on va tout de suite partir dans le Gard chez André. Bonsoir André.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous sur France Bleu. Vous avez 27 ans, André, et il y a 8 mois, vous avez appris que vous étiez séropositif.
Oui, voilà. Donc malheureusement, j'ai appris cette nouvelle. Ça a été très difficile pour moi.
Vous l'avez appris dans quelles circonstances? Un test banal, classique?
Ben oui, c'est un peu compliqué. Je faisais beaucoup la fête et puis avec une soirée un peu particulière, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un peu des tests, et voilà.
C'est quoi une soirée, si c'est pas trop indiscret, André, une soirée un peu particulière, c'est quoi?
Je fréquentais beaucoup les clubs échangistes. Vous m'entendez?
Oui, oui, oui.
Ah, pardon. Voilà, donc je fréquentais beaucoup les clubs échangistes, et donc ce qui s'est passé, c'est que avec la demande des gens sur place, des fois on a un peu évité, voilà, de se couvrir, et c'est ce qui nous a bloqué.
Et là, vous avez dit, il faut que je fasse le test de vous-même. Vous avez voulu le faire?
J'ai voulu essayer de ma personne. J'ai dit, il faudrait quand même que je regarde, et puis c'est là que j'ai appris la triste nouvelle.
Est-ce qu'on vous accompagne quand vous apprenez les résultats? Est-ce qu'il y a un accompagnement médical, psychologique aussi, ou est-ce qu'on se retrouve tout seul face à ces résultats?
Non, tout d'abord, moi, je me suis vraiment senti seul, encore à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, non, ça a été très compliqué d'en parler un peu à mes parents. Ça a été très, très difficile d'expliquer le pourquoi du comment aussi. Donc, ça a été très difficile.
Est-ce qu'on est obligé d'expliquer, d'ailleurs? Moi, je vous ai posé la question, mais c'était très indiscret de ma part, en fait. Hein. Et maintenant, aujourd'hui, 8 mois après... Comment ça va, André? Est-ce que vous avez pu en parler médicalement parlant aussi? Parce qu'il faut peut-être se mettre en route sur un traitement, par exemple.
Ben oui, je me suis rapproché de mon médecin traitant qui m'a donné tous les bons conseils. Et je suis suivi, je commence à être suivi, voilà, maintenant.
On voit que l'annonce, là, Didier, quand on entend André, c'est pas évident. On est souvent tout seul face à ces résultats. Je posais la question si on est accompagné ou est-ce que finalement on fait une prise de sang, on reçoit les résultats comme n'importe quelle autre prise de sang?
Alors, ça dépend le contexte, dans quel contexte et à quel endroit André a fait le test. Mais normalement, les personnes accompagnent un minimum, parce que demandent que la personne revienne chercher ses résultats, surtout quand les médecins savent que le résultat est positif. Et donc, normalement, il y a un minimum d'accompagnement, mais derrière, la personne est quand même lâchée dans la nature. Donc, c'est à la personne de se débrouiller pour aller voir soit son médecin traitant habituel, soit un nouveau médecin, soit s'intégrer dans l'hôpital. Donc oui, on se retrouve très seul, c'est clair.
Et vos parents, ils vous accompagnent, André, ils vous aident, ils sont compréhensifs aussi par rapport à tout ça ?
Oui, on va dire qu'ils sont vraiment attentifs à ce genre de choses, donc ils m'aident beaucoup. Voilà, après concernant les résultats des prises de sang, ben moi je suis allé de moi-même à ma personne, je suis allé dans un laboratoire d'analyse tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu trop d'accompagnement, ils m'ont simplement donné mes résultats dans une enveloppe et puis c'est là que je me suis aperçu. Donc j'ai eu un doute. Et je l'ai refait faire encore 3 mois après, puis qui s'est révélé valide.
Et ça veut dire que le laboratoire vous a rendu l'enveloppe sans entretien ?
Sans entretien, oui.
C'est dur ça. Ça
c'est pas normal surtout.
Bah oui, c'est ça. Il faut quand même un minimum d'explication.
C'est un médecin qui doit vous donner la restitution.
André, vous nous avez dit au standard en appelant que vous aviez peur d'avoir une copine aujourd'hui. C'est vraiment ça qui vous pose problème ?
Ah oui. À l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à en parler à ma femme. C'est très compliqué. Donc, ma femme, trouver une compagne, essayer d'en parler à ma femme, je ne vois pas la situation de le faire du tout.
C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez pas lui dire ?
Non, je n'arriverai pas à lui dire, et c'est pour ça que je préfère, pour le moment, rester de mon côté et attendre gentiment.
Ça peut se comprendre, Didier, au début, on se dit, bon, voilà, je vais d'abord m'occuper de moi, et après on verra. Il faut d'abord assumer et intégrer l'information.
Oui, il faut intégrer, assimiler, vivre avec. On dit vivre avec le virus, il faut apprivoiser le virus, finalement. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de précarité, que ce soit Basiliade ou les autres associations. La précarité, elle est immédiate, elle est immédiatement affective, amicale, familiale. Donc là, André a pu en parler à ses parents, il n'y a pas eu de rejet des parents, mais le fait d'en parler à sa copine, c'est compliqué. Et donc, on voit beaucoup de personnes qui sont séropositives, qui se replient sur elles-mêmes, et qui derrière, sont dans une forme de précarité sociale, sentimentale, affective, sexuelle. Donc voilà, André, il est jeune, j'espère qu'il
va rester tout seul surtout.
Ouais,
il faut
qu'il rencontre des gens, il y a plein de personnes, de belles personnes qui comprennent, il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais voilà, il faut prendre le risque.
André, vous êtes OK pour qu'on vous rappelle dans quelques mois, peut-être pour prendre de vos nouvelles sur France Bleu ?
Oui, pourquoi pas, oui.
Oui,
bien. Bon. Oui, pourquoi pas. Puis c'est toujours important d'en parler, je pense. Et plus ça va, plus j'essaie justement de mettre en confiance. C'est pour ça que j'avais décidé aussi un petit peu de vous appeler.
C'est très bien.
Vous remonter. Voilà.
Ouais. Et puis vous allez voir, il y aura plein d'autres témoignages comme celui d'Hassan tout à l'heure qui vont vous faire du bien, je suis sûre.
D'accord.
Félicitations, André.
Merci. On vous embrasse, André. À très bientôt.
De même. Au revoir.
Au revoir. 0810 055 056. Vous aussi, venez nous en parler sur France Bleu. C'est important. On voit bien que ça fait du bien aussi d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup finalement du sida. On en parle une journée par an parce qu'il y a une journée pour ça. Mais c'est important de voir aussi comment on vit au quotidien avec le VIH, comment on en parle, comment on se cache parfois. 0810 055 056. C'est Nicolas qui sera avec nous dans quelques instants à Paris. Il a rencontré un homme, il est tombé amoureux et il lui a annoncé qu'il avait le VIH. Et il nous parlera justement de ce rôle de conjoint. C'est important et on va parler d'amour surtout. À tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Avec le sida, la vie est beaucoup plus compliquée mais pas impossible. Et on a envie de savoir concrètement pour vous qui êtes séropositif ou qui avez dans votre entourage quelqu'un qui est séropositif, en quoi la vie est un peu plus compliquée ? Est-ce que ce qu'on nous montre, ce qu'on dit sur le sida, c'est ce que vous vivez au quotidien ? Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez ou au contraire qu'on en fait un petit peu trop, qu'on joue sur la peur ? Dites-nous vraiment, vraiment comment vous le sentez. Vous qui êtes directement concerné, c'est quand même plus important que ce soit vous qui en parliez. C'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h avec Didier Arthaud de l'association Basiliade. Et nous partons maintenant à Paris chez Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes tombé amoureux d'un homme qui était porteur du VIH ?
Oui. On est en relation maintenant depuis plusieurs années. Notre rencontre a été très particulière parce que très rapidement, au bout de deux rencontres, en fait, j'ai appris sa séropositivité. Alors ça ne s'est pas fait de façon idéale, pas comme il l'aurait voulu, je pense, parce que je ne l'ai pas appris directement par lui. Je l'ai appris par le biais d'une autre personne.
Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble quand vous l'avez appris ?
On n'était pas vraiment ensemble.
Ah oui, vous connaissiez, voilà. Ouais.
Et ça faisait quelques jours à peine qu'on s'était rencontrés et on avait pris nos précautions. Mais j'étais confronté en fait tout de suite quand j'ai appris ça à ce rejet en fait, cette précarité dont vous parlez ce soir, mais qui là venait en fait qui était causée plus ou moins par moi, et je me suis rendu compte très rapidement de la violence que ça pouvait avoir, cette précarité, on va dire, sociale, en fait.
C'est-à-dire que quand vous l'avez appris par cette autre personne, vous vous êtes dit, oh là là, je vais peut-être pas forcément traîner avec lui. Enfin, il y a eu de ça?
Non, c'est non pas traîner, mais c'est tout de suite, il y a cette espèce de réflexe inconscient que j'ai eu de, pas forcément de peur, mais un peu de panique, et de me dire, est-ce que c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup plu et que j'avais envie de revoir? Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine si je suis pas sûr de pouvoir faire face à ça, ou j'ai pas envie de lui faire subir ce sentiment de rejet qui est d'une violence terrible pour les personnes atteintes du VIH. Et puis, on s'est revus, on en a parlé.
C'est-à-dire, c'est vous qui avez pris l'initiative d'en parler, Nicolas ?
Oui, c'est moi qui lui ai dit que j'avais appris, que j'aurais préféré l'apprendre par lui. Mais c'était dans ce réflexe de peur et d'appréhension, en fait, un peu, enfin, même complètement, complètement irraisonné. Et, parce que ça tenait plus du réflexe qu'en fait, quelque chose de réfléchi. Et par la suite, on s'est revus, on a pu en discuter, calmement, posément, à cœur ouvert. Et j'ai eu la chance, en fait, du coup, de rencontrer quelqu'un, un peu comme Hassan avec son ami, quelqu'un de patient et qui a su m'expliquer les choses, m'expliquer la maladie, m'expliquer l'histoire de la maladie. Et ça m'a... Je dirais pas que c'est quelque chose qui a été fait pour me rassurer, mais c'était surtout fait pour que je comprenne. Et du coup, il n'y avait aucune pression là-dedans, et c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir complètement et de passer au-dessus, en fait, de ces appréhensions que j'avais eues.
Et vous êtes toujours ensemble?
On est toujours ensemble.
Donc voilà, c'est...
Et aujourd'hui, je me dis que je serais passé à côté de quelque chose de très important dans ma vie si j'étais resté buté sur cette première appréhension.
Est-ce qu'on est, Nicolas, un amoureux plus inquiet quand son conjoint est porteur du VIH?
Pour moi, personnellement, non. Parce que c'est quelqu'un qui a contracté le VIH il y a longtemps maintenant, il y a quelques années, qui est traité, qui m'a parlé de son traitement et de sa charge virale, qui est indétectable. Aujourd'hui, vous disiez quelque chose de très juste tout à l'heure, c'est que dans les années 90, on nous en parlait partout, à l'école, à la pub, à la télé, dans la rue, aux stations de métro, aux abribus. Aujourd'hui, c'est vrai, malheureusement, qu'on n'en parle plus. Alors, Didier Arthaud disait quelque chose qui est peut-être juste, et c'est que effectivement, depuis l'arrivée de la trithérapie, je pense que les choses se sont beaucoup tassées et que du coup, il y a une espèce de... On a délaissé un peu la prévention, d'une certaine façon, je pense. C'est dommage parce que c'est important. C'est important déjà pour se protéger, et puis c'est important pour comprendre aussi. Parce que se protéger, c'est une chose, mais ne pas rejeter les personnes qui sont contaminées ou qui peuvent être contaminantes, qui ont été contaminées, c'est nécessaire, c'est quelque chose de très important. Parce que moi, ma première, je vous ai expliqué ma première réaction, mais après quelques jours, je me suis pris en fait comme un retour, une grosse claque dans la tête, en me rendant compte que ma réaction, même si elle n'avait pas été violente verbalement ou physiquement ou autre, cette espèce de peur en fait et de rejet indirect et informulé, cette appréhension, ces deux pas en arrière avec la main en avant en disant oula attention, c'est quelque chose qui peut être perçu très mal et qui isole beaucoup.
Mais encore une fois, finalement, j'ai l'impression, et là je me tourne vers vous, Didier Arthaud, que le problème c'est les autres aujourd'hui avec le sida. Enfin, parce qu'on entend des gens qui, comme Nicolas nous parle de son conjoint, comme Hassan nous parlait aussi de sa séropositivité. On voit qu'aujourd'hui, quand on est bien pris en charge, ça se passe bien, on n'a pas d'effet secondaire sur les traitements, ou très peu. Finalement, c'est tout le temps l'entourage, les autres, le regard des autres, l'appréhension.
Oui, c'est le grand paradoxe de cette maladie, et c'est pour ça que cette maladie est différente des autres, c'est que La maladie aujourd'hui, et on arrive à traiter la maladie, on ne guérit pas du sida, mais on arrive avec un traitement à avoir une charge virale indétectable, ce qui fait que le virus est complètement dormant dans l'organisme, donc il n'y a aucune conséquence sur la vie de tous les jours et sur les aspects, les bilans sanguins et autres. Mais c'est une maladie qui fait peur et qui isole, et le regard de l'autre est très difficile à vivre, parce que quand on s'ouvre à quelqu'un, notamment quand on rencontre quelqu'un, bah voilà, c'est une belle rencontre, c'est toujours une belle rencontre. Et c'est le sujet qui est terrible là. Et bon, voilà, et c'est pour ça que les personnes s'isolent en fait. Parce qu'elles préfèrent ne pas avoir à affronter à chaque nouvelle rencontre, de devoir le dire et de devoir se prendre en retour une réaction qui est tout à fait compréhensible de rejet, de panique, mais qui fait mal.
Est-ce qu'on devient un peu militant aussi, Nicolas, finalement ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous parliez de prévention, qu'on n'en fait pas assez ? Est-ce que vous en faites aussi indirectement ?
Oui, de la prévention, et puis c'est surtout... moi, j'ai été vraiment, on va dire, pas touché, mais on peut plutôt dire percuté par cette prise de conscience de ce qu'était vraiment la sérophobie et la façon, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, peu importe, la violence que ça pouvait être pour ces personnes... malades qui doivent, voilà, comme le disait Yarto, effectivement, doivent se confronter à chaque fois à une possibilité de refus, de rejet, de porte claquée. Et c'est quelque chose de terrible, parce que moi, si j'avais réagi comme ça et j'avais prolongé ce raisonnement-là, je dis pas que c'est quelque chose d'idiot, c'est compréhensible, mais je serais passé à côté quelque chose de génial et je l'aurais pas su. Mais le sachant aujourd'hui, je m'en serais mordu vraiment les doigts. Et c'est pour ça, oui, maintenant que je sais ce que c'est, cette précarisation sociale, cette précarité sociale, cet isolement et le repli qui soit provoqué par le rejet, ou que les gens préfèrent s'isoler par peur d'être rejetés, c'est quelque chose que je comprends mieux et que je peux mieux aborder.
Et votre témoignage est important aussi, hein, Nicolas, et comme celui d'André juste avant et celui d'Hassan aussi. C'est-à-dire que plus on en parlera, plus on ouvrira les portes aussi, et plus ce sera facile de pouvoir en parler, et moins il y aura peut-être de rejet. Enfin voilà, tout est lié. Nicolas, merci beaucoup d'être venu ce soir sur France Bleu. On fera un gros bisou à votre amoureux de notre part, d'accord?
D'accord, très bien.
Au revoir,
merci.
Nicolas.
Au revoir.
0810 055 056 jusqu'à 22h, on en parle avec vous ce soir sur France Bleu. Être séropositif aujourd'hui, qu'est-ce que ça change par rapport à avant, par rapport à il y a quelques années ? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours ? Qu'est-ce que ça change dans le regard des autres aussi ? Venez prendre la parole, venez le faire en toute confiance. Vraiment, encore une fois, il n'y a pas de jugement. On est vraiment là juste pour écouter, on est là pour en parler. C'est un peu aussi une émission militante qu'on fait ce soir, et c'est jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
En France, sur 150 000 personnes qui vivent avec le VIH, 30 000 ignorent qu'elles sont séropositives. Un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est vrai, mais ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui révèle sa séropositivité prend le risque d'être rejetée dans son environnement professionnel, personnel, dans sa vie sociale en fait, en plus de lutter contre la maladie. Alors ce soir, on vous donne la parole et on se dit tout avec vous sur le sida, sur l'annonce de la maladie, sur les traitements, sur l'incompréhension, sur le regard des autres aussi. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Didier Artaud de l'association Basiliade. Et nous sommes avec Jean en Isère. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
C'est en 2001 que vous avez découvert que vous étiez séropositif.
En fin d'année 2001, c'est-à-dire que j'ai découvert ma séropositivité dans la semaine du 11 septembre, en fin de semaine. Donc pour moi, c'était mon propre 11 septembre.
Oui, un grand bouleversement.
Tout à fait.
Vous l'avez découvert dans quelles circonstances, Jean ?
Ben, en fait, j'ai des problèmes d'allergie et j'avais consulté mon médecin. Et puis, donc il me prescrit un traitement. Puis au cours du dialogue avec le médecin, je lui dis, écoutez, j'ai pas mal maigri. Et il me dit, ah bon, c'est étonnant. Et je lui dis, pourtant, j'ai beaucoup d'appétit, je mange bien et tout. Donc il m'a prescrit... les analyses sanguines, et c'est comme ça que je l'ai découvert.
Et vous avez pu faire le rapprochement, de comprendre comment vous aviez...
Je sais pas. En fait, je m'étais séparé de ma compagne, et puis j'ai rencontré pas mal de personnes, et puis comme à cette époque-là, on faisait plus ou moins attention. Enfin, moi, je faisais pas spécialement attention. Ben, je l'ai contracté, mais je sais pas avec qui, hein, finalement. Et puis, j'en veux pas à la personne, hein, de toute manière. Mais le fait était là que, ben, sur l'instant, moi, j'étais en pleine forme, j'étais en pleine santé. Hein, j'avais un bon boulot, tout. Bon, même si j'étais séparé, j'avais quand même une vie qui était agréable. Et là, d'un seul coup, boum, ça me tombe dessus. Et finalement, j'ai été orienté tout de suite à Lyon, où j'ai été pris en charge par le service des maladies infectieuses et tropicales. Et là, on m'a tout de suite mis sous traitement. Et j'ai testé plusieurs traitements. Et à l'époque, il y avait des traitements qui étaient relativement compliqués à prendre. Ce que je disais tout à l'heure à l'antenne, c'est que je prenais 4 fois par jour des comprimés, 5 comprimés qui étaient gros comme une olive.
Ouf, bon, oui. Il faut pouvoir les avaler. Hein.
Ouais, et puis on m'avait prévenu, on m'a dit, avec certains traitements, vous allez avoir des hallucinations. Et c'est vrai, je faisais des cauchemars, enfin bref. Et puis on en a testé plusieurs. Et puis finalement, on est arrivé à un traitement qui était une trithérapie où j'avais une prise le matin, une prise le soir. Mais au début, mon corps la rejetait. Et je ressentais des blocages au niveau des articulations. J'étais complètement bloqué, j'arrivais plus à bouger. Et là, j'ai eu une grosse panique. Je me suis dit, là, je vais y passer, quoi, parce que je me sentais en pleine santé. Et finalement, les traitements, c'est eux qui me mettaient KO.
ça c'est souvent revenu, ça, Didier, les traitements, les effets secondaires de certains traitements aussi. Alors, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas pendant des années.
Oui, ça a été beaucoup le cas. Il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Maintenant, les traitements sont améliorés sur 2 points. C'est qu'il y a moins d'effets secondaires. Et puis les prises de traitement, ce que dit très bien Jean, c'est que les prises de traitement sont beaucoup plus légères maintenant. On arrive maintenant avec une prise par jour à avoir des trithérapies qui sont très efficaces. Voilà. Mais le traitement n'est pas anodin. C'est pour ça que quand on a le VIH, on peut vivre avec le VIH, mais c'est quand même contraignant, avec des effets secondaires quand même. Et c'est un traitement qui n'est pas du tout anodin. Et il y a le long terme aussi. Il y a aussi pas mal de personnes qui aujourd'hui arrivent à l'âge de 50, 60, 65 ans, qui prennent des traitements depuis longtemps, et il y a des effets secondaires sur le long terme qu'on ne connaît pas encore.
On peut le dire, hein, Jean, vous avez 60 ans aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Moi, je me sens bien, mais ce traitement qui, au départ, me causait des gros problèmes, finalement, mon corps a fini par l'accepter au bout de quelques semaines. Et j'ai une prise le matin, une prise le soir. C'est des comprimés qui sont gros comme des doliprane, hein, donc... et finalement, c'est passé, je dirais, ça fait depuis de fin 2001, voire début 2002, je sais plus exactement. Donc, ça fait une quinzaine d'années, donc j'ai plus de soucis avec ça. Et puis, c'est rentré, je dirais, dans mes habitudes. Et par rapport au traitement, donc, ce que je voulais, mon témoignage, c'était un peu pour, par rapport aux personnes qui ont découvert leur séropositivité il y a peu de temps, il faut que ça les rassure et qu'on peut très bien vivre. Très bien vivre physiquement. Après, ce que je noterais aussi, c'est que par rapport à la vie affective, moi, par rapport à ma famille, j'ai pas eu de soucis, ils ont bien accepté la chose.
J'allais vous poser la question, oui, Jean, avec votre famille, vos amis, votre entourage, finalement.
Mon entourage propre, il n'y a pas eu de problème. Par contre, dans la vie affective, c'est plus compliqué. Et bon, comme il y a un phénomène de rejet, au départ, quand on se connaît pas, on utilise le préservatif et tout. Et puis il arrive un moment où la personne elle vous dit ouais mais c'est peut-être plus la peine on n'ose pas dire ouais finalement je suis séropositif si j'enlève mon traitement et tout quelque part c'est quand même assez compliqué quoi.
Mais c'est compliqué, mais c'est bien de pouvoir le dire. Enfin, on en parlera avec Nathalie dans quelques instants, qui vit avec une personne séropositive depuis 7 ans. On va parler peut-être du dialogue, de la vie amoureuse, la vie sexuelle aussi. Mais vous pensez que vous êtes passé à côté d'histoire une fois que vous aviez annoncé que vous étiez séropositif, Jean ? Enfin, il y a des femmes qui sont parties en apprenant que vous étiez séropositif.
Ouais. Tout à fait. Donc maintenant, j'hésite. Et puis finalement, quand on arrive au point où il faut se dévoiler, c'est moi qui fuis, quoi, parce que j'ai pas envie de voir la personne s'en aller comme ça, parce qu'elle a peur. Bon, je comprends qu'on ait peur, on a peur de l'inconnu. Et en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, Antenne, c'est que finalement, les gens sont mal informés Et moi, personnellement, je préfère être séropositif que d'avoir un cancer. Hein.
Ça fait deux fois qu'on l'entend quand même, là. Hein.
Ouais. Parce que moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont des chimiothérapies, mais c'est quelque chose de lourd et très contraignant. Alors que moi, bon, ben, ça fait 15 ans que je vis tranquillement, quoi, finalement. Tous les 6 mois, je fais un bilan sanguin. Ma charge virale est indétectable. Bon, ben, on continue mon traitement. Puis je pense que ça ira comme ça jusqu'au bout. Hein.
Mais vous parliez de précarité amoureuse, Didier. Là, on est clairement dans le schéma avec Jean, ouais, qui dit « Je préfère finalement partir plutôt que de dire que je suis séropositif. »
Je préfère m'isoler et voilà, je préfère fuir. Mais c'est tout à fait compréhensible et légitime. Hein. Enfin, voilà. Donc s'il y a un message à passer pour ceux qui ne sont pas concernés aujourd'hui, c'est si un jour vous rencontrez une personne séropositive, d'abord, c'est bien mieux de savoir qu'elle est séropositive. Quelqu'un qui vous dit qu'il est séropositif, c'est quelqu'un qui assume, qui se suit, qui prend un traitement. Donc, c'est pas quelqu'un contaminant. Donc, au contraire, faites confiance à cette personne qui va vous dire, qui va prendre le risque. Et c'est d'ailleurs une preuve de confiance vis-à-vis de vous. Donc, voilà, prenez ça comme un signe de confiance et comme un signe de confiance dans les deux sens. C'est que la personne vous fait confiance, mais que vous aussi, vous pouvez lui faire confiance.
Merci beaucoup, Jean, pour votre témoignage. Merci d'être passé par France Bleu. Et on va parler justement de vie amoureuse dans quelques instants avec Nathalie en Bretagne. Et jusqu'à 22h, vous avez la parole sur France Bleu. On parle ce soir du VIH, comment vivre au quotidien quand on est séropositif, comment on l'apprend aussi, comment on l'apprend quand on est une maman, un papa, quand c'est son enfant qui est concerné aussi. Est-ce qu'on s'inquiète plus? 0810 055 056, on vous attend jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Je suis séropositif ou je vis avec quelqu'un qui est séropositif. C'est le sujet dont se dit tout ce soir avec Didier Artaud, qui est notre grand témoin de l'association Basiliade, qui a pour vocation d'accueillir et d'accompagner les personnes en situation de précarité. Alors précarité, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Précarité économique, pas que finalement. On a entendu précarité amoureuse aussi, beaucoup. On en parle avec vous ce soir sur France Bleu, de votre quotidien avec le sida. Et c'est Nathalie qui est avec nous maintenant depuis la Bretagne. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Alors vous êtes amoureuse d'un homme séropositif. Depuis 7 ans, vous êtes ensemble. Hein. Vous êtes
oui,
en couple, mariée même.
Oui.
Et vous l'avez su tout de suite?
Ah oui, même... oui, tout de suite en fait. Et on se connaissait pas. Et donc, il voulait sortir avec moi. Donc comme il n'osait pas trop le dire de vive voix, bah, il m'a envoyé un SMS en fait. On était dans un parc et il m'a dit « j'aimerais beaucoup sortir avec toi, mais j'ai le VIH, donc je préfère te le dire d'abord ». Et du coup, je lui ai envoyé un message et je me suis dit « bon bah de toute façon, ça ou autre chose, quand on a un peu de vécu, on se dit « bon bah c'est pas grave quoi, enfin c'est pas de sa faute ». Voilà.
Vous étiez bien informée, vous, Nathalie, ça vous a pas fait peur, le mot VIH, vous saviez où vous alliez finalement avec lui?
Je savais sans savoir en fait, parce que je savais que c'était une maladie grave, mais grave. C'est oui, c'est une maladie grave, mais il y a plein de choses qui sont graves. Mais par contre, je savais pas que ça engageait au quotidien, quoi, enfin dans la durée, quoi, disons. Donc voilà, moi je regrette pas. Après c'est un parcours qui a été assez long, parce que du coup moi ce que je trouve assez dérangeant en fait, c'est surtout le statut de handicap qui est pas facile à vivre, parce que quand on rencontre des gens ou au quotidien, en société, quand on dit « alors, et toi, tu travailles dans quoi ?» c'est pas évident, parce que lui, il avait une profession, une passion, tout ça, et c'est pas facile, parce qu'il a pas envie de dire pourquoi il le fait plus, ou pourquoi... Alors des fois, il dit qu'il le fait encore... qu'il exerce encore son métier.
Et il peut plus l'exercer parce qu'il est séropositif, Nathalie?
Non, parce que ça entraîne une fatigue immense et que son métier est très fatigant. Et que dans la durée, quand on n'a pas d'immunité, le corps s'affaiblit plus vite et il faut avoir un rythme un peu plus calme que les gens normaux, en fait. Parce que sinon, voilà, enfin, travailler 10-12 heures par jour à un rythme soutenu, parce qu'il est dans la... enfin, voilà, il avait un métier, je vais pas le dire à l'antenne.
Non, ne le dites pas, s'il faut pas le dire.
Mais, ouais. Enfin,
mais aujourd'hui, il est donc en invalidité, il est
voilà,
reconnu travailleur handicapé.
Donc c'est tout un parcours parce que on arrête de faire une passion, donc on sait plus quoi faire, on sait plus trouver sa place dans la société. Enfin, vis-à-vis des gens qu'on connaît, des fois on passe pour un feignant ou.
Mais on n'a pas forcément, excusez-moi Nathalie, on n'a pas forcément envie de dire pourquoi. Enfin, je suis tout à fait d'accord.
Voilà, enfin, des fois, on n'a pas envie de se justifier. Et normalement, on ne devrait pas avoir à se justifier. Sauf que des fois, il y a plusieurs personnes dans la pièce et il y en a un qui pousse un peu le bouchon.
Qui insiste un peu.
Et c'est pénible, quoi. Enfin, voilà, bon, après, ça, c'est des petits sauts qui durent 5 minutes dans une journée et puis on s'en remet, on passe à autre chose, quoi. Puis au moins, on sait à qui on a affaire. Voilà. Mais après, au quotidien, moi, ça fait 7 ans que j'ai avec lui, et même au bout de 7 ans, mais des fois, je réalise que, par exemple, dans une journée, moi, je vais faire plein de trucs, puis arrivé à la fin de la journée, je vais dire, allez, on fait ça encore, et lui, il peut pas, et je me rends compte, et je me dis, mais ouais, en fait, il est fatigué, quoi, enfin, c'est juste ça, quoi. Et des fois, on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre, en fait. Et ou des trucs banals, quoi. Enfin, voilà, des fois, on n'arrive pas à se mettre à la place des autres. Et du coup, faut arrêter de juger, quoi. Enfin, faut arrêter d'insister, de juger. Voilà. Après, ça fait des personnes, quand même, qui sont enfin, je sais pas comment expliquer, quoi, mais...
Enfin, là, on a un autre profil aussi, parce que depuis le début de l'émission, on entend des gens pour qui la séropositivité n'avait aucune conséquence physique. Là, on voit avec le témoignage de Nathalie que ça peut en avoir, Didier.
Oui, la fatigue. La fatigue, notamment, les traitements sont lourds. Voilà, il y a la fatigabilité qui est un vrai problème pour les personnes qui sont séropositives avec une certaine lourdeur et qui ont du mal à travailler. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont la reconnaissance handicapée. Mais le monde de l'entreprise, c'est très compliqué parce que même quand on a la RQTH et qu'on peut travailler... souvent, les employeurs demandent pourquoi on a le...
Donc, on est encore obligé de se justifier.
Voilà. Et donc, toujours pareil. Évidemment, si on dit qu'on a le VIH, on n'est pas pris.
Nathalie, j'ai une question très personnelle à vous poser. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble.
Oui, allez-y.
Avoir des enfants, c'est possible quand on vit avec quelqu'un de séropositif?
Moi, j'ai la chance, en fait, de moi-même de ne pas pouvoir en faire. Donc, du coup, on s'est bien rencontrés, en fait.
D'accord. Donc, parce que sinon, c'était pas possible du tout. On prend pas le risque, c'est ça? Comment ça se passe?
Si, parce que je crois qu'il m'a expliqué que lui étant
charge virale indétectable.
Voilà, indétectable. D'accord. On pouvait faire une insémination, tout ça.
Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir un enfant en France. Hein, les femmes sont suivies. Historiquement, il y avait 20% d'enfants qui naissaient séropositifs. Et aujourd'hui, on est au moins de 0,1%. Donc c'est
on
très,
ne
très
transmet
bien.
Plus non, le plus virus du tout, de la mère à l'enfant.
Non, pas du tout. Et donc, c'est vraiment un suivi qui est très complet depuis le début de la grossesse, mais qui fonctionne très bien.
En tout cas, moi, j'aime bien votre petit commentaire, Nathalie. On s'est bien rencontrés tous les deux. C'est très mignon, vraiment. Et puis, c'est une jolie histoire. Je sens que c'est une belle histoire d'amour.
Et puis, je pense que, c'est pas un parcours simple, voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de parcours simples, à tous les points de vue, en fait, je pense qu'il faut rester super positif, quoi. Je sais pas, même au niveau de la sexualité, c'est pas un drame, quoi. Enfin, c'est si on fait gaffe, si on fait attention. Ça se passe bien, quoi. Enfin, moi, je veux dire, je l'ai rencontré, il n'était pas en charge indétectable, hein. Loin de là, hein. Il avait, c'était même dramatique, en fait. Il a fallu, enfin, voilà, grâce à moi.
On a sauvé, j'adore. Allez-y, oui. Nathalie, vous avez raison.
non, mais parce que voilà, enfin, on s'est rencontré, il avait 27 ans. Moi, j'en avais 29, donc on faisait la fête. Voilà, il n'y avait pas une hygiène de vie, une stabilité très, très mise en place. Donc, bah, les traitements n'étaient pas réguliers, les prises de médicaments non plus. Donc, bah, la charge virale varie, le moral aussi.
Et le camion passe.
Voilà. Et du coup, bah, depuis que c'est mis en place, enfin, surtout déjà, il a moins de médicaments. Donc c'est moins galère. Mais voilà, maintenant, moi, ce que je lui ai expliqué, c'est que t'es plus malade. C'est juste que le soir ou le matin, t'as un médicament à prendre, tac, tu le prends. Et voilà, et l'hiver, tu manges du miel, tu prends des trucs anti-rhumes, tu te couvres. Alors, bien sûr, il faut lui dire de mettre son manteau. Enfin, il y a des choses qu'il faut respecter, c'est sûr. Quand on a une immunité plus faible, il y a des trucs à faire, quoi.
Mais j'aime bien votre côté, Nathalie. Il ne faut pas que ce soit une chape de plomb au-dessus de notre tête dans la vie de couple, et notamment dans la sexualité.
Non, parce que, enfin, si on a un problème, il y a deux solutions. Soit on en fait un truc énorme et donc ça va nous plomber le moral, soit on le vit le plus faiblement possible et on pense à autre chose, quoi. On pense à tous les petits moments qu'on vit ensemble, les amis, enfin les problèmes des amis aussi, et on essaye de rêver un peu, quoi.
Didier Arthaud, il est chouette le témoignage de Nathalie.
Ouais, c'est super, d'entendre ça, et c'est vrai que c'est une belle rencontre parce que ça permet aussi, ça peut aider les personnes à prendre conscience que la santé est importante et qu'une fois qu'on prend un traitement, ben on est moins fatigué et puis on vit une vie normale. Donc l'accès au traitement est très important. C'est une étape très importante pour les personnes séropositives. Et c'est vrai, quand on a la chance d'être accompagné par une Nathalie, comme oui, Nathalie, c'est super.
Sacré personnage. Merci Nathalie d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. On vous embrasse tous les deux et on continue de parler du sida ce soir, être séropositif aujourd'hui. C'est quoi votre quotidien? C'est quoi qui a changé? C'est quoi le plus compliqué finalement? 0810 055 056. Alors c'est peut-être vous effectivement qui êtes séropositif, c'est peut-être votre conjoint comme l'histoire de Nathalie, c'est peut-être votre fils ou votre fille également. Venez en parler tranquillement avec nous jusqu'à 22h. C'est vous qui avez la parole sur France Bleu.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Vous êtes séropositif mais vous n'êtes pas dangereux, c'est ce que vous répétez à longueur de journée à ceux qui se posent des questions à votre sujet, qui ne savent pas ou qui ne veulent pas forcément savoir. Ce soir, on a décidé de savoir, justement, d'en parler, de faire le point sur le quotidien quand on vit avec le VIH, de l'annonce au traitement, des discriminations à la peur de perdre son emploi, de la vie de couple à la sexualité. 0810 055 056, vous avez la parole ce soir en compagnie de Didier Arthaud, qui est notre grand témoin de l'association Basiliade. Et nous partons maintenant en Alsace, chez Arnaud. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir, on va faire un grand bond de Paris, on va en Alsace, hop là.
Hop là, on aime bien nous voyager comme ça, passer d'une région à l'autre. Arnaud, c'était il y a 2 ans que vous avez découvert que vous aviez le VIH.
Oui, moi c'était il y a 2 ans, donc c'était il y a 2 ans, j'ai fait une prise de sang un petit peu, voilà, au hasard. Bon, je savais quand je jouais un petit peu avec le feu, que j'ai joué. Moi je suis moi-même homosexuel, donc j'ai joué beaucoup avec le feu aussi, et je savais qu'un jour ou l'autre, il aurait m'arrivé une bricole, et c'était celle-là. Donc étant donné que je connaissais très bien le virus, etc., parce que j'avais des amis à moi qui très proches qui étaient également séropositifs, avec les traitements, j'étais de base chez AIDS aussi pendant une époque avec eux, donc je faisais les tours, etc., en allant voir les personnes qui étaient séropositives, les prostituées, etc. Donc on apprenait à les connaître. etc. On voyait donc c'était vraiment quelque chose qui était bien. Donc je connaissais déjà cet aspect-là par rapport à ce virus. Et quand je l'ai eu, l'avantage qu'on a, on est très bien suivi. On a aussi j'ai été suivi tout de suite dès le début sous trithérapie avec 3 cachetons, et au bout de 2 ans je suis passé à 1 aujourd'hui. Parce que on est indétectable au bout de 6 mois. Donc c'est quand même énorme les progrès de la médecine qui ont été faits en aussi peu de temps. Et moi, je trouve ça, je trouve ça super, quoi, de se dire encore aujourd'hui, on peut en vivre toujours encore jusqu'à 90 voire 100 ans, pour certains. Mais de se dire, voilà, on s'accroche, la vie change, c'est sûr, pour les personnes qui l'ont.
Qu'est-ce que ça a changé quand vous dites la vie change? Qu'est-ce qui a changé pour Voirnaud?
Ça m'a affecté un peu au début. J'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à ma famille, tout le monde est au courant, mes amis proches, etc. Et aujourd'hui, on voit encore, par contre, beaucoup de choses du genre, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai, je bois pas dans ton verre, non, je sais que t'as le sida. Malheureusement, ça se voit encore. Mmh. On est au 21e siècle, on sait ce qui se passe. On sait les progrès de la médecine. Au début, dans les années 80, j'ai eu 30 ans dimanche dernier. Dans les années 80, j'ai encore connu, j'ai regardé des reportages par rapport à ça, quand je l'ai su, on voyait des morts par dizaines, par cinquantaines, par centaines, chaque semaine, à la télévision. Alors qu'aujourd'hui, on estime quand même encore à plus de 250 000 personnes qui vivent avec le virus et qui ne le savent pas. Et je me dis, voilà, on est quand même, on a une évolution aujourd'hui du 21e siècle qui est énorme avec ces trithérapies et on peut en vivre sans aucun problème. Moi, j'ai des gens qui connaissaient pas le virus et j'ai redit venez avec moi directement chez mon médecin, il vous l'explique. Voilà, comme ça évitait aussi aux gens d'avoir peur autour de soi.
Mais oui, parce que il y a plein de jeunes et d'enfants aujourd'hui qui savent pas comment on attrape le sida, des a priori, des idées reçues, des espèces de fantasmes.
Ouais, et aujourd'hui, comme je dis toujours, il reste un moyen qui est le plus sûr, c'est le préservatif. Et on a aussi aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez parlé depuis le début, parce que j'ai pas écouté toute l'émission depuis le départ, et je m'en excuse d'ailleurs.
Mais non, mais vous avez le droit. Hein.
Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la PrEP.
C'est quoi la PrEP?
Alors la PrEP, ça vient d'Amérique, et on a attendu une dizaine d'années avant que ça vienne en France. Et donc, c'est ce qu'on appelle, donc c'est le fameux médicament qui s'appelle le Truvada. C'est ce qui fait le blocage du virus. Et donc on peut maintenant, en évitant, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se protéger, pour X raisons, parce que ils veulent pas, ou ils sont allergiques au latex, etc. Et on leur donne c'est le cachet avant le soir d'avant, 2 heures avant le rapport et un après. Ce qui évite qu'ils, même s'ils ont un rapport à risque, justement pour éviter d'avoir préservatif, ils n'auront pas le virus.
D'accord, c'est un peu chaud quand même, Didier, non? Non, c'est pas.
C'est une des grandes avancées très récentes. Hein, les études ont montré que, en prenant un traitement préventif, en l'occurrence ce traitement dont parle Arnaud, finalement, le virus ne peut pas intégrer l'organisme, et donc ça permet de se protéger de façon indirecte par rapport à une contamination. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est sur lequel on travaille beaucoup actuellement pour permettre aux personnes qui, pour des raisons multiples, ne peuvent pas mettre le préservatif. Prenons un exemple, il y a des femmes qui n'ont pas la capacité de mettre le préservatif parce qu'elles n'ont pas la capacité d'imposer le préservatif à leur partenaire. Voilà, on essaye de faire en sorte. Et puis, il y a des personnes qui sont aussi à risque une activité sexuelle un peu assez importante. Et du coup, ils prennent des risques multiples. Et donc, ces personnes-là, on les incite aujourd'hui à faire la PrEP, un programme de PrEP. Donc, il y a deux possibilités. Soit on le prend avant et après comme on nous l'expliquait là, soit c'est sur un mois tous les jours, un traitement tous les jours.
Merci beaucoup Arnaud d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu et à très bientôt, on l'espère, on vous embrasse jusqu'à 22h, il ne reste pas beaucoup de temps mais on continue bien sûr de parler du sida avec vous ce soir. Vous êtes séropositif, vous vivez avec une personne séropositive, quel est votre quotidien? Venez un petit peu casser le cou aux idées reçues, venez nous dire justement qu'est-ce que ça change et puis qu'est-ce qui ne change pas, parce que c'est important aussi de dire qu'on en vit bien aujourd'hui avec le sida, même si la vie est un tout petit peu plus différente et il faut faire un peu plus attention que les autres. 0810 055 056 pour nous rejoindre sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on partage justement vos témoignages et vos expériences autour du VIH ce soir. Comment on vit avec le virus du sida aujourd'hui? C'est Didier Arthaud de l'association Basiliade qui est notre grand témoin et Chantal nous a rejoint depuis Rouen. Bonsoir Chantal.
Oui, bonsoir madame, bonsoir.
C'est votre fils qui est concerné?
Tout à fait, c'est mon fils qui est concerné, voilà, une dizaine d'années. Bien entendu, bon, ça a été très difficile pour lui de l'accepter. Il s'est caché un peu de cette maladie. il me l'a annoncé. J'ai eu du mal, bien entendu, à accepter. Mais j'ai pris conseil auprès d'une personne qui m'a dit tu choisis ou tu gardes ton enfant comme il est ou tu le perds carrément. Et cette personne m'a fait prendre conscience que effectivement mon fils, c'était mon fils, que je l'aimais, il était comme il était, malheureusement il a eu ça, mais surtout ce que je voulais dire, c'est que des parents, ne laissez jamais vos enfants tout seuls devant un tel problème, il faut les aider du mieux que l'on puisse pour qu'ils vivent leur vie, parce qu'ils ont droit, ils ont fait peut-être une petite erreur, ils se sont fait prendre à quelque chose, ils ne s'y attendaient pas, mais ils ont le droit de vivre au même titre que nous.
Et surtout, vous avez entendu les témoignages, Chantal, aujourd'hui on vit mieux quand même, on vit longtemps, on vit bien, on ne meurt plus du sida. C'est important aussi de le dire, d'expliquer.
Mais absolument, c'est pour ça que moi j'ai été prise en charge également psychologiquement pour pouvoir me faire expliquer tout ça. Et on m'a bien expliqué, maintenant lui il est en trithérapie et il travaille à mi-temps. Et quand vous le voyez, c'est un grand jeune homme qui est vraiment dans sa tête, il a l'impression qu'on le regarde. Ça, c'est une certitude. Mais quand vous le voyez, il est comme tout le monde. Hein.
Mais moi, je trouve ça intéressant, Didier Arthaud, ce que dit Chantal, de se faire accompagner aussi quand on est parent, l'entourage, enfin, pouvoir se faire expliquer les choses, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, c'est une bonne chose. De toute façon,
la parole est essentielle. Et c'est vrai que bah, là, c'est une démarche super intéressante de faire la démarche, d'aller au CHU, de se faire accompagner psychologiquement. Voilà. Mais l'entourage est important aussi, d'en parler autour de soi.
Le regard des autres dont parlait Chantal, il a l'impression que tout le monde voit qu'il est séropositif. Ça, c'est quelque chose que vous entendez souvent, qu'on vous dit souvent?
Oui. Le regard sur soi, le regard sur son corps, hein, change fondamentalement dès qu'on a le VIH. Et c'est vrai que bah, du coup, on a peur du regard des autres.
Chantal, merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est bien aussi d'avoir une maman. On a eu des amoureux, des amoureuses, mais c'est bien d'avoir les mamans. On sait qu'elles s'inquiètent toujours pour leurs enfants, quel que soit l'âge, hein, quel que soient les mots d'ailleurs. Et évidemment, on peut comprendre l'inquiétude des parents face à une telle maladie. Mais j'espère que si vous nous écoutez depuis le début de l'émission, si vous aviez des doutes un petit peu sur le VIH, que tout ça a été un petit peu levé grâce à l'émission, d'entendre des gens qui vivent bien avec le VIH, qui sont amoureux, des gens qui continuent leur vie un petit peu différemment des autres, mais qui la vivent bien finalement.